L'ouverture d'une porte de cellule.
Je regarde s'ils sont présents, mais je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé.
$200 la télé.
Un maton.
Dans les cours de promenade.
Salut, vous êtes à l'écoute de Papillon. Nous sommes le dimanche 3 juillet, il est 17h30. Déjà, avant tout, on voulait vous faire nos excuses pour la dernière émission qui a été un peu un échec en termes de retransmission. Il y a eu des petits soucis techniques et en fait, il fallait être un petit malin et pour l'écouter, il fallait l'écouter en mono. Donc voilà. Donc après, elle a été rediffusée, donc les gens ont pu l'entendre dans de bonnes conditions. Mais bon, c'est vrai que le jour du direct qui n'était pas du direct, et c'est là où il y avait nos petits problèmes techniques, et ben voilà, donc voilà, on s'excuse. Donc l'émission d'aujourd'hui...
La honte.
Hein ?
C'était la honte.
Ouais, c'était un peu la honte. Ouais. Donc l'émission d'aujourd'hui sera rediffusée sur Radio Dio le jeudi 21 juillet. L'heure, Elsa, tu l'as ou
pas ? À midi.
Voilà, à midi. Et sur Radio Canu pour la prison de Corba le mardi 19 juillet à 20h. Bon alors aujourd'hui dans les studios...
Sur Canu.
Sur Radio Canu 102.2, voilà, 102.2 FM à Lyon.
D'ailleurs juste au passage, il y aura peut-être quelqu'un qui va nous écouter d'ici, depuis le quartier d'isolement de Corba. Et voilà, si vous nous écoutez de là-bas, on pense à vous, on sait que c'est dur quoi.
Bon alors aujourd'hui dans les studios il y a Payoup à la technique, salut.
Oui, salut.
Elle est à côté de moi, salut.
Bonjour.
Et moi-même Sophie, bah je vous salue. Bon alors pour ceux qui ne connaissent pas Papillon, donc Papillon c'est une émission d'1h30 d'information et de réflexion sur la prison, l'enfermement et aussi la machine judiciaire qui enferme. Hein. Et pour parler de tout ça, nous on privilégie la parole des prisonniers, donc qui sont les premiers concernés par l'enfermement, et aussi des proches de prisonniers, puisque eux aussi subissent l'enfermement. Et voilà, et donc si Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière ont été libérés, hein, cette semaine on n'a entendu que ça, il reste encore 65 000 prisonniers enfermés, isolés, entravés, et voilà, leurs proches qui subissent ça, et dans les médias, bien évidemment, on n'en parle pas. Donc voilà, saisissez-vous de Papillon, écrivez-nous et participez à cette critique, vraiment nous on est cet espace-là, et l'émission Papillon a du sens uniquement si vous vous en saisissez, vous qui êtes de l'autre côté du mur, quoi. Voilà, donc pour aujourd'hui le programme c'est pas mal de choses, hein. On a reçu beaucoup de courriers, quelques courriers, mais très on était super contents de les recevoir, ces courriers de la Talaudière, qui parlent du système éducatif à la Talaudière, des conditions de détention. On a reçu aussi, on nous a transmis un courrier de Francis Dichépolo, qui est un détenu longue peine enfermé à Lannemezan. Voilà, il nous a écrit récemment. On vous fera la lecture aussi d'une lettre d'une personne qui est en grève de la faim en Belgique. et qui est en quartier d'isolement. On parlera aussi de la réforme de la garde à vue. On en parle un peu tardivement, mais là, il y a des informations intéressantes et voilà, construites, etc. Et avant tout, bah, avant de commencer tout ça, on va vous faire quelques petites brèves de la Talaudière de ces derniers jours.
Voilà, donc ouais, il s'est passé quelques petits trucs à la Talo hein, ce mois-ci. Plusieurs petites choses. En fait, on a peu d'infos précises et concrètes. Mais on voulait signaler quand même. Donc déjà, alors ça, je crois que ça s'est passé aux alentours du 10 juin. C'est une nana qui était au parloir qui m'a raconté. Donc j'ai pas les détails et les infos précises. Mais elle m'a raconté, donc il y a un détenu qui avait été frappé donc, de manière assez spectaculaire quand même, je pense, par les surveillants. Et sa nana, qui était venue le voir au parloir, est ressortie vraiment très très chamboulée. Et en fait, une bonne partie des familles qui étaient présentes au parloir ce jour-là, elles ont décidé de bloquer la sortie du parloir pour demander des comptes sur ce qui s'était passé. Donc j'en sais pas bien plus. Donc bien entendu, bah, quand il se passe des choses comme ça, si vous voulez le faire savoir ou si vous voulez vous mobiliser derrière, notre émission est vraiment là pour ça. Et par ailleurs aussi, bah, signaler que je trouve ça quand même, ça fait chaud au cœur de savoir que malgré l'histoire horrible qui s'était passée, il y a les gens qui ont été un peu solidaires et qui se sont bougés, qui ont réagi. Parce que souvent, bah, quand on va là-bas, on baisse les yeux plus qu'autre chose et on préfère éviter de voir la misère du voisin. Et c'est très triste. Et voilà.
Et souvent, bref. C'est par peur de représailles ouais. Sur la personne, le proche qu'on va voir qui est enfermé.
Ouais, alors que l'expérience en plus montre que plus on gueule et plus on gueule ensemble, plus ils se la ferment en face. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était une histoire déjà. Une autre donc, qui a eu lieu mardi. Donc il y a c'est toi Payou qui va en parler.
Non, c'est pas grave. Oui, mardi il y a eu encore une autre histoire de fouille au parloir comme il y avait eu il y a quelques mois dont on avait parlé. Et donc les fouilles avec les douanes, les services de police et avec en présence également d'un substitut du procureur. Donc voilà, il se trouve qu'il y avait 45 personnes sur les 45, il y en a 21 qui sont fait choper. C'est les infos qu'on a. Alors ça, c'est l'article de la Tribune qui dit ça, dont deux avec des substances illicites, hein, en l'occurrence du shit, et donc les 19 autres avec des sandwichs, des choses très très banales en fait. Hein,
Des malabars,
des petites choses pour améliorer le quotidien pourri de la détention. Alors ce qu'on sait aussi par ailleurs, c'est que alors il y aurait eu 19 suspensions de parloir, comme il y avait eu à la première histoire dont on vous a parlé il y a quelques mois. Là, il y en aurait eu 19, d'après ce qu'on sait, si c'est, ouais. C'est bien ça, avec également des fouilles à nu aussi. On en parle au conditionnel. Hein, mais...
Ouais, en gros, juste pour resituer, donc quand tu vas au parloir voir un proche, ta veste, ton blouson est passé au rayon X, toi tu passes devant un détecteur de métaux, et en gros si on trouve sur toi ou dans le sac de linge des choses illicites, c'est-à-dire à peu près tout est illicite, on n'a rien droit d'amener en prison, tu peux te faire refuser l'accès ou avoir une sanction. Et là, au-delà des fouilles, des vérifications et des contrôles habituels, ils ont emmené les gens, ils ont dit aux gens, vous nous suivez à la fouille. Et donc, ils les ont réellement fouillés, palpés. Et donc, ils auraient, c'est vrai, parce qu'on met bien tout au conditionnel aujourd'hui, on attend plus d'infos. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont été mis à nu aussi. Enfin, ça n'arrive jamais, ça, ou quasiment jamais. Et c'est un peu hallucinant, quoi.
Ouais.
Ça... Là, t'as gagné ta journée, quoi.
C'est clair.
Tu t'es humilié.
Ouais, et puis, 19 suspensions de parloir.
Ouais, c'est énorme.
Après, ça peut durer plus ou moins longtemps. Hein. Ouais. On ne sait pas combien de temps ça peut être supprimé. Pour un sandwich, c'est quand même assez énorme. On te coupe tes liens pour un sandwich ou pour des malabars ou même c'est quand même. Enfin, même pour tout. Hein. De toute façon, que ce soit n'importe quoi, mais c'est quand même assez ridicule pour un sandwich et des malabars de supprimer, de sucrer un parloir. Quoi.
Ouais. À savoir que donc il est écrit à l'entrée, enfin à la maison d'accueil des familles à la Talaudière, le règlement est plus affiché et il est bien écrit qu'on peut refuser les fouilles, on peut refuser de se faire foutre à poil par exemple. Après le risque c'est qu'on vous refuse l'accès à l'établissement, il précise pas S'ils vont te suspendre ton parloir, à mon avis, non. En tout cas, on peut dire non, je ne veux pas que vous me fouillez, je me casse et je rate mon parloir. Donc forcément, c'est hyper triste de rater son parloir, mais peut-être ça peut valoir le coup.
Ouais, pour les
on n'a pas forcément envie de se faire tripoter par les surveillants, quoi.
Et puis c'est bon à savoir, hein, parce que la plupart, ils suivent voilà, les flics, un procureur, les douanes, voilà, c'est l'autorité, c'est dur de dire non. Et quand on ne sait pas qu'on peut dire non, et bah souvent on accepte. Quoi. Enfin, voilà, ça arrive.
Et ouais, pour l'anecdote un peu rageante, on parlait de Malabar. En fait, donc ça s'est passé mardi. Apparemment, mercredi, ils ont continué à amener des gens à la fouille, peut-être moins nombreux, je ne sais pas. Donc vendredi, forcément, au parloir, c'était encore tout frais cette histoire, tout le monde en parlait. Et il y a une surveillante qui a chopé une nana qui sortait du parloir pour lui dire, lui faire une petite réprimande, un petit peu paternaliste comme ça, en lui disant « On sait que vous avez mangé au parloir, on vous rappelle que c'est interdit. » Donc vous voyez, c'est un peu aussi genre « Vous voyez, on est permissif quand même, on est bien gentil. » Ils jouent toujours là-dessus en fait, d'être des fois un peu gentils sur leur règlement pour... faire semblant que c'est cool, tout va bien, puis un jour ils te mettent un gros coup de trick, quoi.
Puis il y a le truc aussi qu'on avait déjà dit à l'époque quand on avait parlé de cette même genre d'affaire il y a quelques mois, c'est que il y a vraiment aussi la volonté quand il y a des grands déploiements de police, de douane, etc., la volonté de dire, eh ben, vous êtes famille de détenus, donc proche de coupable, donc suspect, donc potentiellement coupable, et on va vous faire la misère juste parce que vous avez voulu amener des petites choses qui améliorent la détention de votre proche, quoi. Ouais. Donc, il y a vraiment ce truc de culpabilisation aussi de tout l'entourage, quoi, du détenu, quoi.
Ouais. À savoir que dans cette histoire-là que je racontais, la surveillante, elle disait « Vous savez, l'autre jour, il y en a pour deux Malabar, hein. Ils ont eu leur suspension de permis, alors c'est pour ça, je vous préviens, quand même, faites attention. » Et alors, genre, voilà, trop bizarre, genre, elle dit bien que c'est hallucinant que les gens se fassent suspendre leur permis pour deux Malabar, juste, elle bosse là-dedans, quoi. Et elle révèle elle-même l'absurdité totale de ce système, en disant aux gens, faites gaffe, avec des bonbons, vous pouvez vous retrouver avec une sanction de fou. Voilà, de Malabar.
Et bon, elle l'accepte en continuant à bosser dedans, quoi.
Ouais. Bravo.
Et du coup, on peut faire la transition, c'est que...
Bah, enfin, sauf si je veux juste dire un truc qui fait rager aussi, c'est en fait... Enfin, peu importe que ce soit des malabars, du fric ou autre chose, quoi. Enfin, on s'en fout, en fait. C'est pas le problème. Mais le truc... par exemple, quand on a recherché l'information sur Internet dans le Progrès, on est tombé directement sur un site de fachos qui relatait ça.
Qu'on ne nommera pas, d'ailleurs.
Qu'on ne nommera pas, voilà. Et que juste, tu t'entends des trucs super dégueulasses, genre c'était quoi la phrase?
Non, mais j'ai même pas les commentaires, même pas la dire, mais juste c'était tellement horrible que
juste, on va rappeler à ces fachos qu'il y en a plein dans l'administration pénitentiaire et que dans l'administration pénitentiaire, il y en a plein qui participent, comme ils disent, enfin, comme ils nomment là, ces trucs là, de trucs qui passent au parloir, d'éponges, machin. Quand ils parlent de trafic, et bien que ces trafics-là, bah, les surveillants aussi y participent et qu'ils font bien leur blé dessus. Et je ne ferai pas de la diffamation parce que je vais m'appuyer sur un exemple très concret. C'est un exemple qui s'est passé à Chalon-sur-Saône où il y a un surveillant qui a été mis en examen parce qu'il se faisait plein de thunes en rentrant de l'alcool, des cassettes vidéo, etc. Et peut-être même du shit, ça on n'en sait rien, mais bon, y a les surveillants participent à ces trafics-là, donc que ces gros bâtards de fachos ferment leur gueule. Ça a le mérite d'être clair.
Voilà. Ouais. Bon, du coup, on peut faire la petite transition avec, par rapport à l'histoire qu'il y avait eu avant.
Et à savoir vraiment que manger au parloir, par exemple, c'est un truc qui est très souvent toléré, en tout cas à la Talaudière. Après, chaque prison choisit un peu dans quelle mesure elle fout la pression. Et c'est vraiment le truc qui est ouvertement toléré. Et bam, d'un coup, ils tombent sur les gens et ils leur mettent une grosse répression d'un coup. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi.
C'est ce qu'on appelle l'arbitraire.
Ouais. Et le dernier truc, c'est qu'on n'a pas réussi à savoir s'il y avait eu des gardes à vue suite à ça. Parce que quand, en septembre, ils avaient chopé genre 8-9 nanas avec... des stupéfiants sur elles. Elles étaient allées en garde à vue, elles avaient eu des procès. Et là, on n'a pas réussi à trop savoir. Donc, de toute manière, si vous avez envie de parler, de donner des infos ou des témoignages sur cette histoire, bien entendu, on est là pour ça. Venez parler. Et l'autre truc, c'est qu'on a entendu aussi que, bah, y a les, suite à cette histoire, il y a des familles qui réfléchissaient à former un collectif de familles. Et ouais, ben, bah, il y a pas mal de gens qui parlent de plus en plus de ça sur la Talaudière. Donc, bah, ce serait super cool, quoi. Et nous, ça nous intéressera toujours. Et bah, on rebondit vite fait sur quand même une relativement bonne nouvelle, c'est que donc par rapport à l'histoire de donc en septembre quand les nanas s'étaient fait arrêter avec des stupéfiants sur elles en entrant au parloir, il y en a une, on vous en a parlé récemment, qui avait une suspension de parloir depuis, donc ça faisait très longtemps, et qui n'avait aucune réponse de quand est-ce qu'elle aurait droit à nouveau d'aller voir son chéri. Et ben, elle a fait des démarches, elle a envoyé des lettres et passé des coups de fil aux services sociaux de la Talo. Et nous, on a envoyé juste une lettre et copie de ces lettres. Donc une lettre à la Talo, à la direction interrégionale des services pénitentiaires et copie de ces lettres à diverses associations. Et comme par magie, il suffit de se bouger un peu en fait. Quelques jours après, on a reçu la réponse de la Talaudière. Oui, bon, d'accord, la punition a assez duré, on leur redonne leur permis de parloir. Donc c'est pas du tout une gloire, hein, mais c'est pour dire, des fois, quelques lettres, se bouger un peu le cul, pas le faire tout seul, ben,
ça peut marcher. Ça voilà. Peut marcher. On passe au courrier de Mathieu.
Ouais, on a reçu un autre courrier de la Talo, donc je vais vous en faire la lecture. Salut Papillon, je m'appelle Mathieu, je suis incarcéré à la maison d'arrêt de la Talaudière. Je vous écris pour vous expliquer les problèmes que j'ai rencontrés pour passer des diplômes, ainsi que les problèmes avec le directeur scolaire. Début novembre, je vois un message sur la chaîne de la RAT, donc c'est le canal interne, ce qui se passe sur la télé, qui demande si des détenus sont intéressés pour passer des diplômes, celui du CFG, du DNB et du CAP. Je me dis que c'est une bonne manière de gratter la totalité de mes remises de peine. Je fais un mot pour demander de m'inscrire. Je rencontre le directeur scolaire et m'inscris pour les 3 diplômes. Il me donne les dates pour le CFG, que je passe début décembre, sans aucun problème. Des cours sont déjà en place ici et le directeur scolaire m'y a inscrit tout de suite. Après avoir passé le CFG, je continue de participer aux cours. Puis, début mai, le directeur scolaire me donne les dates du CAP. En même temps que je lui demande les dates du DNB. Et là, le directeur me dit que je ne suis pas inscrit. Je râle sur lui et lui dis que je veux être inscrit, que je prépare cet examen par correspondance avec Auxilia, qui est une entreprise de cours par correspondance qui intervient aussi dans le milieu pénitentiaire, depuis 4 mois. Là, il me répond « Auxilia, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Voyez avec eux. Pour moi, je ne vous inscris pas. » Je râle encore et il me répond « Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. » Là, j'ai compris qu'il n'aimait pas bien que l'on travaille avec Auxilia. Puis après, il me dit qu'il y a des cours de soutien pour la préparation du CAP. Je m'y inscris. Arrivé le premier cours de soutien, excuse-moi Mathieu, je m'y présente et m'aperçois qu'il n'y a que des cours en mathématiques. Et pas dans les autres matières. Surtout dans la spécialité de mon CAP, l'électricité dont je n'ai pas beaucoup de connaissances et que c'est quand même plus difficile que des maths. Ensuite, 3-4 jours avant le début des épreuves, le directeur scolaire me les donne à passer. Une épreuve qui était prévention, santé, environnement n'avait même pas été expliquée. Je ne savais pas en quoi elle consistait. Un autre détenu aussi ne savait pas. On décide alors d'aller demander au directeur scolaire qui nous répond. Ah bah ça les gars, on verra dans la semaine. Hein. Alors que l'on était à moins d'une semaine de l'épreuve et qu'il n'y avait toujours pas des cours pour d'autres matières que les maths. Puis 3 jours plus tard, commencent les épreuves. D'abord les épreuves d'oraux. Puis quand arrivent les épreuves d'écrit, on retourne voir le directeur scolaire pour en savoir un peu plus sur cette épreuve. Quand on arrive dans son bureau, il était complètement dépassé par l'organisation, alors que l'on n'était que 3 à passer le CAP. On lui demande pour cette épreuve, il ne savait toujours pas nous répondre. Et il nous dit encore un truc de dingue. « Ne vous inquiétez pas, les gars, tout va bien se passer. » Bien sûr, tout va bien se passer. N'empêche qu'on était à moins de 3 heures de cette épreuve et qu'on ne savait toujours pas en quoi elle consistait. De plus, le jour de ces épreuves, un concert était organisé, ce qui nous a un peu dérangés pour nous concentrer. Bien que l'on n'avait rien contre l'organisation de ce concert, au contraire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'organisation de l'école à Maison d'arrêt de la Talaudière. Alors que l'AP est si fière de nous balancer qu'ils font tout pour que l'on passe des diplômes. Merci à Papillon et à l'ensemble de la radio pour tout ce que vous faites pour nous. D'ailleurs, j'appelle tous les détenus qui rencontrent des problèmes au sein de la maison d'arrêt de la Talaudière et qui nous écoutent à écrire à Papillon et de dénoncer cette administration qui fait n'importe quoi. Signé Mathieu. Bah déjà, Mathieu, merci pour ce courrier, parce que ça faisait un bout de temps qu'on entendait parler justement de problèmes liés aux scolaires à la maison d'arrêt. Donc c'est la première lettre qu'on a à ce sujet. Et du coup, voilà.
Ouais, moi je voulais juste dire, c'est vrai que c'est très significatif de tout ce qu'on entend sur les tracas que tu peux avoir face à une administration en général. Bah là, en prison, c'est puissance 1000 et les conséquences, elles sont puissance 1000. Et je trouve que ces petits tracas et ce directeur-là qui a l'air complètement dépassé et de foutre de la gueule du monde... Ben ouais, c'est très significatif. Quoi.
Et puis bah là, tu peux, t'as juste lui en face de toi, le seul unique interlocuteur qui est valable aux yeux de l'administration. Donc toute démarche que tu fais, t'es en but à un mur, quoi. Et quand même, ce qu'il faut dire, c'est que avant qu'il y ait tous ces systèmes éducatifs qui soient formalisés, il y a eu des expériences dans les années milieu des années 80, notamment à la centrale de Saint-Maur, où c'était les détenus qui prenaient en charge le socioculturel, l'aspect éducatif des cours, et qui avaient vraiment une auto-organisation par rapport à ça, qui marchait comme un... Enfin, c'était une... Ça roulait, quoi. Et même, ils avaient même réussi à faire des conférences, à faire venir des grands intellectuels, genre Edgar Morin, machin, et ça, c'est pas aujourd'hui qu'on verrait ça avec des directeurs scolaires comme ça, quoi.
Bah, surtout que, dans le cas de Saint-Maur, c'est la paix qui a tout fait pour casser c'est ça,
en plus,
qui a fait fermer les trucs et qui a cassé ce truc.
Et parce que ça crée vraiment une dynamique au sein de la tôle, avec des solidarités qui se mettaient en place, du lien qui était créé et qui cassait aussi l'isolement, quoi. Donc voilà, là tu te retrouves face à une copie et des épreuves, voilà où t'en es, quoi.
On va passer un petit morceau.
Allez. Oui.
Je suis à l'antenne là, c'est bon. C'est bon. Ouais, donc bah, on vient d'écouter Bank Robber des Clash. Voilà, on a un peu coupé avant la fin. Parce qu'on manque de temps. Bref, donc on va continuer avec d'autres lettres qu'on a reçues depuis la maison d'arrêt de la Talaudière. Au sujet en fait de donc deux personnes, Nabil et Mathieu, qui nous ont écrit pour dire qu'ils avaient décidé de porter plainte contre leurs conditions de détention et voilà, et pour nous expliquer un peu où ils étaient dans leur démarche et pourquoi ils faisaient ça. Donc juste pour resituer, on a déjà parlé, et ça en avait parlé un peu dans la presse et tout aussi, de détenus qui entamaient ces démarches. Il y a deux avocats à notre connaissance en France qui se bougent à fond le cul là-dessus et qui essayent de développer ça. C'est Maître Étienne Noël à Rouen et Maître Cormier à Lyon. Voilà, en lien souvent avec l'Observatoire international des prisons. Et voilà, le but, je pense, c'est... Enfin... Bon, bref, voilà, on a déjà expliqué. Et ça, ça se fait auprès du tribunal administratif. C'est un recours auprès du tribunal administratif. Il faut le faire faire par son avocat, etc. On a déjà donné les détails. Là, on va vous lire les lettres. Et bien entendu, on peut en reparler plus tard si ça intéresse des auditeurs. Donc, on va commencer par la lettre de Nabil et Mathieu. Voilà longtemps qu'on voulait écrire à Papillon pour expliquer pourquoi nous avons déposé plainte contre la maison d'arrêt de la Talaudière, quelles ont été nos démarches et nos motivations. Pour cela, il faut remonter à quelques mois en arrière. Un groupe de détenus en avait marre des conditions de détention, de l'insalubrité, toujours plus de répression, etc. Alors que nous discutions des façons dont on allait engager une lutte, les surveillants et un syndicat ont fait un communiqué de presse sur les mauvaises conditions de détention, expliquant que c'était des conditions indignes et dégradantes. Donc ça, c'était paru dans Le Progrès local. Nous avons donc décidé de déposer une plainte auprès du tribunal administratif par l'intermédiaire d'un avocat de Lyon. Pour l'instant, la procédure suit son cours et nous donnerons plus d'informations sur la plainte plus tard. Revenons-en au but et le pourquoi de cette plainte. Nous ne faisons pas ça pour l'argent, ni pour rendre la Talaudière plus humaine, car elle ne le sera jamais. Notre but est de poursuivre les luttes du passé, qui bien souvent sont oubliées comme si c'était un acquis. Oui, en théorie, les prisons françaises doivent répondre à des règles en matière d'hygiène et de conditions humaines. Mais en pratique, aucune de ces règles ne sont respectées. Certaines de ces règles viennent de luttes de prisonniers qu'il ne faut pas oublier. Nous avons ici un exemple concret. Au parloir de la Talaudière, il y a toujours des séparations entre les familles et les détenus, et ce n'est sûrement pas la seule prison, alors que les séparations n'ont plus lieu d'être dans les prisons françaises. Ces séparations ont été sujets à des luttes de prisonniers, mais il ne faut pas croire que c'est un acquis. La lutte n'est pas terminée sur ces sujets, car ils persistent dans certaines prisons. Nous n'avons aucun intérêt personnel, nous le faisons au nom de tous les détenus de la Talaudière et nous les incitons à nous rejoindre et qu'à leur tour ils déposent une plainte au tribunal administratif. Au collectif aussi, nous demandons leur contribution pour faire suivre notre message, etc. En attendant que la plainte avance et que nous puissions vous donner plus d'infos, sachant que cette lettre sera diffusée sur Radio Audio dans l'émission Papillon, nous en profitons pour rappeler aux détenus qu'ils peuvent prendre contact avec Papillon s'ils veulent prendre des infos, afin de nous rejoindre dans nos démarches ou même simplement pour contribuer à l'émission Papillon. Nous passons le bonjour à l'ensemble du collectif Papillon. Merci pour votre soutien, vos infos pratiques et aussi pour votre passion à animer cette émission de radio. Nous passons le bonjour aussi à tous ceux et celles qui écouteront notre message et aux amis, car sans eux, peu de choses seraient possibles. Nous vous réécrirons bientôt pour revenir sur le sujet de cette plainte, mais aussi pour continuer à contribuer à votre émission. Force, courage et détermination.
Voilà, alors maintenant, on va passer à la...
Merci à vous. Et puis oui, bien entendu, on suivra tout ça, on soutiendra tout ça. Et à la fin de l'émission, un peu avant 19h, on rappellera nos contacts pour ceux que ça intéresse.
Voilà. Donc là, on va passer à la lettre. C'est une copie de la lettre que un des deux détenus a envoyée à Maître Cormier, donc pour cette plainte. Alors, du coup, donc c'est à l'attention de Maître Cormier, Saint-Étienne, le 5 mai 2011. Maître, comme vous l'avez demandé au téléphone fin avril à Mademoiselle Bip, je vous fais parvenir aujourd'hui les renseignements que vous souhaitez pour le dépôt de plainte que je veux déposer contre l'administration pénitentiaire concernant les conditions dégradantes de ma détention qui portent atteinte à ma dignité. Je suis incarcéré depuis le 26 juillet 2008 et j'ai occupé successivement les cellules d'arrivants, puis les cellules 221, 222, 223, 231, 131, 231, 252, 156. Mes observations concernent les points suivants. Premier point, l'état des douches. 4 douches sur 6 sont en état de fonctionnement et aucune ne répond aux conditions d'hygiène, présence de champignons, saleté, présence d'excréments et de nourriture. Deuxième point, la nourriture. Les chariots convoyant les repas sont stockés à côté des poubelles le matin de 11h à 11h30 et le soir de 16h à 18h. La nourriture refroidit pendant ce délai et les repas sont souvent froids. Les repas sont pris dans la cellule où les toilettes ne sont pas réellement isolées du reste de l'espace, ce qui peut entraîner une contamination des aliments. Troisième point, l'état des cellules du bâtiment dont j'ai été détenu. Infiltration d'eau par les fenêtres mal isolées, d'où présence d'humidité, de froid l'hiver et de chaleur excessive l'été. Pas de séparation pour les toilettes. Effritement des peintures et des murs. Manque de lumière naturelle due à la présence de caillibotis sur les fenêtres. Donc les caillibotis, c'est ces grandes grilles qui laissent passer très très peu de lumière. Voilà. Et qui logiquement sont interdites en plus. Manque de mobilier dans beaucoup de cellules, chaises, tables et vestiaires en nombre insuffisant. Quatrième point, conditions de détention. Pendant 19 mois, j'ai été détenu dans une cellule prévue pour une personne, moins de 9 mètres carrés, et où nous avons dû cohabiter à 2 ou 3 dans des conditions inacceptables. Mobilier insuffisant, promiscuité, toilettes pas séparées, pas de lit pour la troisième personne qui dormait par terre. En 3 ans, je n'ai pu rencontrer mon conseiller de probation que 2 fois, malgré mes demandes réitérées, et encore la seconde fois, c'était juste pour discuter de mon transfert. Cinquième point, conditions de travail aux ateliers. Aucune prime de vêtements ne nous est allouée pour nos vêtements, alors que nous travaillons sans aucune protection. Pas de chaussures de sécurité, pas de gants, pas de masque de protection. Sixième point, parloir. Les salles d'attente sont sales et il y fait très chaud en été et froid en hiver. Les cabines des parloirs sont trop petites pour accueillir une famille. Séparation par des tablettes entre la famille et le détenu. Septième point, promenade et cours de sport. Aucun abri en cas d'intempérie, pas de préau. Terrain de foot avec des nids de poules qui occasionnent de nombreuses fractures, foulures, entorses, etc. Huitième point, direction et surveillance, mépris du détenu. Aucune écoute dans les projets professionnels ou de réinsertion sociale, fouille de nuit. Les conditions de détention ne répondent en aucun cas aux normes prévues par la Cour européenne et je souhaite que vous puissiez le faire valoir devant le tribunal administratif. Je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous prie d'agréer, maître, blablabla. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'extrait de la plainte déposée à maître Cormier. Donc voilà, encore merci pour nous avoir fait circuler ça. Et puis bon courage. Et puis bon, on vous soutiendra dans la mesure du possible.
Et puis voilà, ce qu'il faut dire, c'est que cette procédure, c'est quand même une procédure qui est longue. C'est en termes d'années, en fait, aussi, que ça se chiffre pour avoir un rendu, quoi.
Oui, ça va pas se rendre la semaine prochaine, ni l'année prochaine, peut-être pas, d'ailleurs.
Et déjà aussi, moi, juste ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que... on n'avait pas souvent eu une description aussi détaillée de problèmes très concrets et matériels qui peuvent se soulever à la TALO, quoi. Que de... ouais, bref, c'est bien. Merci.
Bon, bah merci beaucoup. Et on
va passer,
on va passer une petite chanson, une dédicace.
Ouais, JC, qui est un grand fan de Trio.
Alors nous, on n'y connaît rien en Trio, donc on a pris un morceau au hasard. Hein. Désolé, mais en tout cas, on espère qu'il te fera plaisir. Voilà, et il s'appelle Travailler Plus.
On m'a pas voté pour travailler plus. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être mal payé. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur. 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place. Les heures sup, ça nous connaît, on n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler plus, pour gagner plus? J'ai pas décidé de travailler plus, pour gagner. Je pensais que le monde allait changer, que le temps libre, être libéré, avait son intérêt. Des emplois, des métiers d'avenir, une économie d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer,
que nos conneries nous avaient raisonné, que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice. Y a du vice, je pense trop, mais je dois pas être trop con. Je l'ai bien vu, le gros bateau qu'a acheté mon patron. Moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison. Et si je lève le gros lot, je crois que j'arrêterai mon boulot. On m'a pas voté pour travailler plus, pour gagner plus. J'ai pas décidé de travailler plus.
Je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions. Et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons. Mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion. En vacances, hors de France, le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination.
Je pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si l'homme et le travail sont unis à en mourir, si comme des ânes on va bosser et ne rien dire.
Je pense que le boss passe bien à la télé, mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps, le vent, les amis, l'écologie font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi
de travailler plus pour gagner plus. On n'a pas voté pour travailler plus.
Bon, alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM. Donc, vous venez d'écouter Trio et JC, j'espère que t'es pas trop déçu du morceau qu'on a choisi et que ça allait.
Alors, c'était une spéciale dédicace aussi aux détenus et à tous les autres qui triment comme des barges dans les ateliers, quoi.
Voilà, on peut dire ça aussi. Alors, la suite. Donc, on a récupéré un courrier. Déjà, merci à la personne qui nous a permis de l'avoir et d'en parler aujourd'hui. Donc, ce courrier, il est écrit par Francis Dichépolo, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan, près de Toulouse. Et en fait, il nous a écrit parce qu'il a pris connaissance du travail qui était effectué à l'antenne de Papillon, enfin par Papillon, et aussi parce qu'en fait, il souhaite témoigner de sa situation et de parler de sa lutte, qui est celle d'un individu qui veut être libéré, en fait. Et déjà, Francis, en fait, c'est un prisonnier longue peine. Il a été condamné à une peine de 30 années assortie d'une période de sûreté égale aux deux tiers de sa peine de 30 ans par la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône. Alors même que la peine maximale qu'il encourait pour les faits qui lui étaient reprochés était de 20 ans. Et là, Francis, ça fait maintenant 11 ans qu'il est incarcéré. Et en fait, donc cette condamnation de 30 ans, c'est une erreur grave qui est due à la formulation des questions qui ont été posées aux jurés pour la mise en accusation des crimes, parce que dans un procès de cour d'assises, la condamnation, elle se fait à partir de questions qui sont rédigées par des magistrats professionnels et auxquelles les jurés doivent répondre par oui ou par non. Et en fait, toutes les personnes qui étaient mises en examen pour cette affaire ont été acquittées, sauf lui. Lui, il clame son innocence. Et en plus de ça, la situation est vraiment complètement absurde. Donc, il s'est passé plusieurs choses, en fait, puisque Francis a entamé plusieurs actions avec l'aide de l'avocat qu'il a aujourd'hui, Maître Febraro. Il a d'abord constitué un pourvoi en cassation contre le premier arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, qui a été rejeté en 2006. Bien évidemment, on a tout compris au dossier parce que c'est extrêmement complexe quand même cette affaire. C'est du droit, c'est complexe, mais en même temps, on peut se le réapproprier, ça c'est certain. Donc voilà. Et en 2010, son avocat a constitué un pourvoi dans l'intérêt général de la loi auprès de la garde des Sceaux à l'époque, qui était Michel Alliot-Marie. Et la requête donc qui a été faite a été rejetée par le ministère de la Justice. Aujourd'hui, où il en est, c'est qu'il a fait une procédure donc en cassation auprès de la chambre d'instruction afin de rétablir cette erreur manifeste de droit. Et auprès, il entame aussi des démarches auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui mettra du temps aussi à rétablir cette vérité à laquelle il prétend. Et voilà. Et en fait, sa situation est aussi tellement désespérée que son avocat l'encourage aussi à contacter les médias et surtout à ne rien lâcher. Et en fait, Francis a eu plusieurs histoires. Lui, clairement, il clame son innocence. Il a été mêlé à plusieurs histoires pour lesquelles, à chaque fois, il a été acquitté. Et là, en fait, c'est un peu compliqué, mais la question qui était mal formulée lors du procès d'assises et qui l'a conduit à être condamné pour une peine de 30 ans, en fait, ça se basait donc sur, juste très rapidement, parce qu'on n'aime pas bien parler des affaires, en fait, c'est pas on s'en fout, en fait, ce pourquoi les gens sont condamnés. Nous, ce qui est important, c'est de soutenir des gens qui sont en lutte et qui luttent pour leur liberté, en fait. Et juste, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans une des questions, les faits pour lesquels il a été condamné, c'est comme si, en gros, c'était pour une prise d'otage. Si c'était une prise d'otage, c'était 30 ans. Alors que dans son arrêt, la cour d'appel stipulait que c'était en gros une séquestration. Une séquestration, c'est 20 ans. Donc en gros, ils reconnaissent que c'est une séquestration. Enfin, on a vraiment tout compris au dossier. Hein, c'est là aussi. Oui, j'accélère. Lui, il a pris comme si en fait c'était une prise d'otage et du coup qui valait 30 ans.
Alors, à noter quand même un petit détail, c'est que lui se réclame innocent.
Voilà. Ça, c'est important parce que là, son combat aussi, il est sur ça. Et du coup, il nous a envoyé un courrier et puis on va vous en faire la lecture et après, on en fera quelques commentaires.
Ok. Alors, ça a été écrit au centre pénitentiaire de Lannemezan le 1er avril 2011. Avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes des diverses émissions qui s'occupent d'attirer l'attention de notre société. Pour ma part, vous pouvez citer mon nom et mon prénom, ainsi que celui de mon avocat, qui se donne un mal fou à faire appliquer la loi édictée dans notre code de procédure pénale et dire où je réside. Donc là, alors, il y a toute une partie de la lettre qu'on a zappée parce que, voilà, il revient très en détail sur son affaire. Et voilà, on a un peu essayé de vous la résumer. Donc voilà. Alors la suite, c'est ma date de libération actuelle est donc en date de janvier 2024. Pour un simple vol, je rentre en prison en 2000 et en ressort en 2024. Vous jugerez vous-même l'horreur de la situation. Après ce recours, j'ai donc fait cassation. Je suis donc à ce jour en cassation. Bien évidemment, le président de cette cour peut à sa convenance amoindrir ma peine maximum, le gel dont j'avais droit, à savoir 20 ans. Avec votre concours, je peux y arriver. Je n'ai pas encore la date de l'audience. Dans le cas où le président protégerait cette ignominie dont je fais l'objet... J'aurai recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Évidemment, elle me donnera gain de cause dans 4 ou 5 années, le temps qu'elle mette à rendre ses décisions, si bien que j'aurai fait presque 16 années de prison sur 20 pour un simple vol. À titre d'information, les services de police ont vicié délibérément toutes les procédures du dossier. Toutes les côtes du dossier, environ 60 kilos, sont entaché d'erreurs. Je n'aurais jamais dû faire un jour de prison. Évidemment, j'ai les 60 kilos sous mon lit et les doubles dehors. Alors oui, j'en veux aux avocats qui se fossilisent dans leur fauteuil, qui ne veulent qu'une chose, l'acquittement, au lieu de faire sortir leur client sous vice de procédure. Aucun policier de la PJ ne peut effectuer une procédure saine sans vicier les enquêtes préliminaires ou les commissions rogatoires. Se sachant protégés par les juges d'instruction, eux-mêmes protégés par les procureurs, eux-mêmes protégés par la chambre de l'instruction, et tout ce beau monde est chapeauté par la Cour de cassation, la plus haute instance française. En 2001, sachant tout cela, j'ai tout appris. La façon de produire les mémoires, les termes employés et tous les codes de justice.
Et dans toutes les personnes dignes d'être aidées, on m'a enfermé
au quartier d'isolement avec transfert environ tous les 4 à 5 mois. Mais malgré les tortures morales et 3 ou 4 fois physiques, je n'ai pas arrêté de le faire. C'était mon exutoire. En 2006, j'ai écrit au ministère qui régit les détenus au quartier d'isolement en ces termes. J'abandonne Nelson Mandela. Un mois après, j'étais en détention normale. Mais je n'ai pas abandonné. Je les ai fait condamner par le tribunal administratif. Et je continue encore. 3 années à Moulins et depuis le mois d'août de cette année, je suis à Lannemezan où je continue. Mon étiquette est celle-ci, meneur procédurier. C'est une honte ce qui se passe dans les établissements pénitentiaires. C'est devenu de la détention business. Pour les télés, le prix des cantines, les subventions données par le ministère qui sont détournées, le salaire donné aux travailleurs qui n'atteint jamais le SMIC horaire prison, etc. Monsieur Essel avec « Indignez-vous » est loin du compte, etc., etc. Il faut le vivre pour le croire. Je dois avoir une dizaine de dépôts de plaintes auxquels les procureurs n'ont jamais donné suite. Toulon, Marseille et Paris. Car tout le monde sait que j'étais innocent. Je vais répondre à votre question. Comment fais-tu, Francis, pour ne pas devenir fou ? Parce que je ris de tout avant, de peur d'avoir envie de pleurer par la suite. Et puis je suis le bibliothécaire, il y a plus malheureux que moi sur les livres. Pour tout renseignement sur mon affaire, vous pouvez téléphoner à mon avocat. Pour tout ce qui concerne les autres choses, exemple, comment faire pour faire bouger cette dictature, je me ferais un très grand plaisir d'être utile. Oh oui, rien ne me ferait plus grand plaisir. Bon courage à toute votre équipe et un grand merci à toutes et à tous. Auquel cas mon histoire serait diffusée, je vous dédicace Un monde à part, chanté par Johnny Hallyday. Francis. PS. J'ai oublié de signaler que c'était la première fois que je passais aux assises, donc primaire, pas en récidive, et tous les autres ont été acquittés pour ces faits. Je suis le seul à avoir été condamné pour cette affaire. Ma dernière condamnation, 2 ans en correctionnel, pour avoir donné 2 coups de poing en date d'août 91. Moi, depuis l'âge de 25 ans, je suis fiché au grand banditisme. Il faut que vous sachiez cela, malgré que cela ne rentre en rien en compte.
Ouais, bah une lettre quand même assez éloquente de pas mal de choses. Et surtout, on voit bien comment la justice elle ne se désavoue pas, en fait, et que tous se soutiennent de A à Z à partir du moment où t'es mise en examen, à partir du moment où tu passes devant dans un tribunal, à partir du moment où il y a des erreurs de droit, et voilà. Et aussi, l'autre chose que posait cette lettre, c'était les stratégies de défense. Et qu'à un moment, dans son parcours, dans ce qui se passe, dans les procès, etc., il signale que... À un moment donné, il avait des avocats en première instance de l'assise. Il avait des avocats qui ont voulu carrément le faire acquitter, enfin faire annuler le procès, alors que lui, en fait, ce n'était pas sa stratégie. Il voulait vraiment pointer l'erreur qu'il y avait dans la formulation des questions. Sa stratégie n'a pas été suivie par celle des avocats, ces magistrats professionnels, vraiment, qui... Il y a un côté un peu tout-puissant, quoi. Donc, c'était d'autres avocats que celui qu'il a maintenant. Et du coup, ça pose vraiment, en fait, la question de comment se réapproprier le droit et son affaire, son dossier, et aussi... Comment, de manière très concrète, de retourner la situation et dire non, l'accusé peut aussi être accusateur d'une justice qui condamne, qui se trompe, etc., et qui envoie des gens en prison pendant que tout ce beau monde-là continue de vivre, etc. Voilà, parce que 10 ans, parce que 20 ans, parce que 30 ans, c'est des peines de vie, c'est des peines. C'est des peines où, je sais pas, on peut acheter une maison, faire des projets avec son partenaire, c'est tout ça. Et qu'en face, il faut pointer l'illégalité et c'est pas forcément ce qui a été fait par c'était pas la stratégie de ses avocats à cette époque-là et qu'on peut même citer, un exemple très concret quoi par rapport à ça, comment on peut retourner la justice et dire que vous êtes illégaux aussi en face, parce que quand Michel Alliot-Marie répond qu'en gros, il n'y a pas d'erreur dans son dossier, etc., qu'elle refuse le recours en grâce. En attendant, Michel Alliot-Marie, c'était l'autre là qui alors qu'elle-même, elle condamne des gens à des peines de je ne sais pas combien, qui étaient potes avec tout le régime tunisien, par exemple, qui eux-mêmes, volaient des thunes, enfermaient des gens, séquestraient, torturaient, enfin voilà quoi. Et là, la situation elle est retournée. Et à partir de là, on pointe du doigt. Et là, c'est l'accusé sort de son rôle dans lequel on veut l'enfermer, c'est celui de subir, de se taire et d'être représenté uniquement par un avocat. Et il a qu'à se la fermer quoi. Et du coup, ce que pointe aussi Francis et dans sa lettre, c'est le côté meneur procédurier, et qu'on voit en fait cette réappropriation, enfin à quel point en fait elle fait chier aussi quoi, elle fait chier la justice, et que la connaissance des textes officiels et des lois, ça permet en fait, c'est un combat parmi d'autres, mais qui crée un rapport de force. Et du coup, qui peut permettre une défense plus forte pour l'accusé en fait. Voilà, c'est vraiment le truc de pas se laisser déposséder de son dossier par rapport à ces professionnels de justice quoi. Et du coup, l'autre pan aussi, et là que pointe son avocat parce que la situation est un peu désespérée. C'est vrai que nous, on peut pas avoir d'emprise en tant que papillon. Notre émission, on n'a aucune emprise en fait sur ce dossier. On n'en aura pas. Et la seule chose qu'on peut faire, enfin très clairement, on peut pas mentir aux gens. C'est juste en parler, essayer de faire circuler cette information et afin d'en faire parler, et que ça prenne de l'importance. Et en ce sens-là, l'information, justement, elle a un rôle important. Et là, et que ça vienne vraiment de la personne qui est emprisonnée. Et parce que aussi, elle permet de cette information-là, elle permet de briser l'isolement, et de rendre visible toutes ces situations-là, ces parcours, et justement, de pas enfermer le prisonnier dans son rôle de je me la ferme et je subis ma peine, quoi. Et voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Et l'autre truc que je voulais rajouter, c'est par rapport aux jurés. Ces jurés qui, en fait, dans les cours d'assises, participent avec les magistrats au rendu de la décision. Ils jugent, on les amène à se prononcer et c'est juste des gens comme n'importe qui à tout moment de leur vie peuvent aussi se retrouver derrière les barreaux, mais ça ils ont peut-être tendance à l'oublier et juste à se délecter des quelques miettes de pouvoir qu'on leur donne. De dire un tel est coupable, tel autre, non. Mais quand un tel à leurs yeux est coupable, les peines qui sont prononcées. Et surtout, le juré, on lui demande aussi d'être docile. Et qu'il y a déjà eu Catherine Charles venait parler... Catherine Charles, qui était l'ancienne présidente de l'ARPI, quand elle parlait du procès en assises de son fils, qui était jugé pour tentative d'évasion en hélicoptère, etc. Pour évasion en hélicoptère, dans les jurés, il y avait une personne qui posait un peu plus de questions que les autres, qui n'était pas satisfaite du déroulement du procès. Ce juré a vite été évincé, en fait. Voilà. Et c'est ça en fait, ce qu'il y a à dire, c'est que c'est des gens à qui on donne des bribes de pouvoir et qui peuvent distribuer des peines.
Pour justifier le haut nom du peuple français qui a écrit sur le...
Le haut nom du peuple français qui est magnifique.
Ouais, exactement. Et du coup, il y a un petit truc aussi, c'est qu'à la fin, il dit, dans son PS, là, il dit c'est qu'un détail, le fait qu'il soit fiché au grand banditisme depuis l'âge de 25 ans. Il dit que ça ne rentre pas en compte, mais enfin, moi, je pense que malgré tout, ça rentre un peu en compte. C'est si tu as le malheur d'être fiché au grand banditisme, et celui-là, ce cas, il montre très bien que.
On revient à toi, quoi.
Ils ne te lâchent pas, quoi. Ils ne te lâchent pas, ils te feront la misère. Et ils te mettent 30 ans dans la gueule. Et ça, je pense que ça joue, malgré tout.
Et tu veux dire un truc à ça ?
Ouais, vas-y.
Non, vas-y.
Moi, je voulais revenir sur cette histoire dans la manière que lui, il a choisi de lutter. Je sais pas, bref, je crois que ma phrase n'était pas très française. En fait, sur le fait de lutter sur le terrain du droit, on en a parlé pas mal lors de la dernière émission avec Sylvie. Et en fait, en gros, moi, la justice, j'y crois pas. Je suis pas d'accord. enfin, ce serait l'objet d'un grand débat, mais je ne suis pas d'accord pour que des gens extérieurs à moi jugent les affaires et les embrouilles qui me concernent. Et je pense qu'on se débrouillerait très bien sans. Et que cette justice, elle envoie des gens en prison, des tonnes de gens en prison. Elle crée énormément de souffrance. Et donc oui, c'est une des manières de lutter contre la prison, de se réapproprier les outils du droit, d'élaborer des bonnes défenses, d'avoir des gens avec qui échanger là-dessus. On sait, on entend souvent parler de prisonniers, souvent des gens qui ont des peines assez longues, qui se mettent à fond là-dedans et qui aident les autres. Et c'est vrai que ben ouais, ça fait partie de la lutte en fait. Et ça rappelle que dans les années 80, quand même, les suites du comité d'action des prisonniers, qui était un groupe assez large de prisonniers en lutte, et ben ça a fini. Il y a une des branches qui a fini par être, je sais plus comment ça s'appelait, mais une branche Cap Justice, je crois. Et c'était vraiment tout un travail de fond mené là-dessus, sur notamment la défense active. Donc ce que tu disais. Ne plus être simplement dans son rôle d'accusé, essayer de s'en sortir comme on peut, mais vraiment essayer de s'en sortir le mieux possible, essayer de faire un procès contre la justice. Et voilà, parce que c'est vrai que bah, bêtement, se défendre bien, c'est prendre, avoir un peu des chances de son côté de prendre des peines moindres et donc de moins aller en prison. Donc
et puis aujourd'hui, il y a ça. Et puis aujourd'hui, il y a le cas de... Enfin, je pense à Abdelhamid Dakar. Qui lui justement bah, il se fait mettre aussi la misère alors qu'il est bon lui il se dit innocent depuis des années parce qu'il aurait tué un policier mais il se fait mettre la misère aussi parce que il a aidé plein de gens autour de lui sur ce terrain du droit et à pas tout ce qu'il avait acquis pour lui-même pour se défendre lui il l'a mis au service des autres et voilà et on lui fait la misère aussi pour ça Donc ouais, c'est vrai qu'il y a ce cas aussi d'Abdelhamid Dakar. Ouais.
Surtout qu'en plus, il y a le côté théorique de connaître le droit, point de vue théorique. Et après, il y a connaître le droit quand on a fait l'expérience. Quoi. Quand tu as eu pas mal d'affaires ou que tu as suivi pas mal d'affaires, tu connais un peu certaines ficelles, machin. Enfin voilà, c'est important d'échanger là-dessus aussi.
Mais bon, en tout cas, voilà. Donc j'espère que... Enfin Francis, tu pourras nous entendre. Et enfin, voilà, si tu veux nous écrire d'autres courriers, on les lira, bien évidemment. On suivra ton affaire. Et,
on t'a écrit, d'ailleurs.
Ouais,
aussi.
On t'a écrit, donc on espère que tu as reçu notre lettre ou que tu vas la recevoir bientôt, là. Et puis, bah, tiens bon. Hein, et voilà, nous, on continue voilà, à suivre ton histoire tant que tu nous écriras et tant que tu le désiras, bah, on sera là et on se battra aussi pour faire savoir ce qui se passe.
Espérons que tu sortes avant 2024.
Voilà, exactement.
Parce que imaginez, je prends à témoin tous les auditeurs, imaginez-vous un instant ce que c'est qu'être en prison jusqu'en 2024.
C'est vraiment, Francis, c'est quelqu'un c'est un individu qui se bat pour sa liberté, quoi. C'est ça.
Voilà.
Donc, on est là.
Et du coup,
il nous a proposé
une belle chanson de Johnny. Donc, voilà, il la dédicace à tout le monde, à tous les détenus en l'occurrence. Et puis, voilà. Donc, un monde à part du grand Johnny Hallyday. Voilà.
J'ai raté beaucoup de choses dans ma vie. La fin, je voudrais la réussir.
Des ombres glacées qui viennent te marquer le visage. Ce que des bruits de clés à tous les étages. C'est des envies d'ailleurs qui passeront jamais le grillage. C'est des hommes qui pleurent dans tes lits trop sages. Là-bas, c'est un monde à part et sans toi. Là-bas, c'est une vie comme tu n'en peux pas. Là-bas, le temps se fige, c'est même pas qu'on t'oblige. C'est comme ça, là-bas. C'est des jours qui se comptent à coups de craie sur des murs noirs, comme un tableau qui te redonne l'espoir. Juste un peu de honte quand tu te retrouves au parloir. C'est mieux que si personne ne venait te voir. Là-bas, part et sans toi. Là-bas, c'est une vie comme tu n'en veux pas. Là-bas, le temps se fige, c'est même pas qu'on t'oublie comme ça. Là-bas, où tu parles fort, où tu parles pas. Là-bas, tous les coups du sort sont pour toi. Là-bas, le temps efface les sourires dans les glaces. C'est comme ça, c'est comme ça, là-bas. Là-bas où tu parles fort, où tu parles pas. Là-bas, tous les coups du sort sont pour toi. Là-bas, le temps efface les sourires dans les glaces. C'est comme ça, là-bas.
Et voilà, toujours à l'écoute de Papillon sur le 89.5 de Radio Dio. Et c'était le morceau que Francis dédicaçait à tout le monde. Johnny, à mon appart. Bon, désolé pour le son un peu pourri. Ça a été pris sur une cassette enregistrée sur YouTube parce que j'avais pas le morceau chez moi.
Ah bon ?
Donc, oula, merde. Désolé. Donc, voilà. Bon, on va continuer du coup.
Ah ouais, les casques marchent très mal et nous pètent dans les oreilles, c'est un peu déstabilisant. Bon voilà, donc merci Johnny, on ne savait pas que tu étais dans
un artiste anticarcéral. Voilà, bon Johnny, ça va, mais on passera pas à Michel Sardou, hein, ça par
ouais,
contre.
Non, ça c'est sûr que ça, on n'ira pas jusque
le
là.
Le temps béni des colonies, vous voulez dire ?
De toute façon, Sardou n'aurait jamais fait un truc pareil. Hein. Vu que c'est un facho notoire. Bon, alors, on va enchaîner. On va lire une lettre de Nordine Benalal, qui est incarcérée en Belgique. Voilà, donc pour resituer vite fait, en fait, Nordine Benalal et Farid Bamouhamad sont en grève de la faim dans le quartier de haute sécurité de Bruges. Donc c'est un peu l'équivalent des quartiers d'isolement en France, c'est-à-dire c'est l'enfer. Il explique un peu, bref, dans sa lettre. Nordine et Farid, c'est des gens qui sont en lutte, c'est des prisonniers qui ont pris des années et qui sont en lutte vraiment, ils sont vraiment à donf dans la lutte, on va dire, depuis longtemps. Et c'est La Cavale, un journal anticarcéral belge, qui nous a fait tourner ces infos. Elles sont sur Internet aussi et on va essayer de les faire tourner. On trouvait ça important de vous en parler. Donc là, ils sont en grève de la faim et de la soif, Nordine et Farid, depuis le 20 juin. Donc ils vont vraiment pas bien du tout. On essaiera de suivre et d'en donner plus de nouvelles la prochaine fois. Là, on n'a pas eu beaucoup plus de nouvelles. Et à savoir juste vite fait que le quartier de haute sécurité de Bruges, il a été ouvert il y a quelques années et quelques temps après qu'il a été ouvert, les détenus qui étaient incarcérés dedans l'ont démoli de l'intérieur en l'inondant pour, parce que c'était la dernière solution pour se révolter contre. Et l'administration a quand même réussi à le faire réouvrir, à y mettre des gens et vous allez voir ce qu'ils leur font là-bas dedans. C'est, ouais, ça fait froid dans le dos. Donc voilà, une lettre de Nordine qui a été écrite en avril 2011 en tout cas, et qui circule un peu. Et voilà, on parlera plus précisément sur plus tard.
Il y a une brochure aussi qui est diffusée pour les gens qui sont à l'extérieur et qui est disponible sur Internet.
Sur le site d'Indie Media Bruxelles.
Ouais.
Indie Media, ça s'écrit Indymedia. Voilà, sur Indie Media Bruxelles, il y a plus d'infos.
Voilà, alors son texte, il s'appelle « Étranger ». C'est bien possible qu'il y ait juste un truc qui cloche avec moi, mais je me suis toujours senti comme un étranger. Dans n'importe quel environnement où je me trouve, je suis étranger. Rien d'autre qu'un allochtone dans ma ville. Depuis ma naissance, ils m'ont mis un tampon Alloctone. Ils ont changé le système maintenant, modernisé entre guillemets, si tu veux. Mais le principe reste le même. Je dis Alloctone parce que j'ai passé trop de temps en Flandre et plus haut encore, chez leurs amis hollandais, ceux qui ont colonisé la Belgique avant que ce ne soit la Belgique. Le pays qui donne l'eau à la bouche encore à ces petits ministres flamands, le pays qui leur sert de grand exemple. Je pourrais aussi dire délinquant, petit marocain ici, berbère là-bas, sale et pauvre, rien de plus qu'un touriste perdu au Maroc. Je suis resté sourd à la langue de camp de concentration moderne qu'est cette tôle de Voogt en Hollande, où j'ai été enterré vivant pendant quelques années. De là, j'ai ensuite bougé à quelques kilomètres, mais le décor a peu changé. C'est d'ailleurs le grand exemple de l'EBI à Voogt que la Belgique a emprunté pour construire son bloc d'isolement. Enfermé dans un cachot institutionnalisé et permanent dans la prison-usine de Bruges, la différence est dans la couleur des murs. Avec les matons, on n'a pas à se comprendre. Je n'ai rien à voir avec eux, je n'ai pas à être ici. Étranger au mien aussi. Coup après coup, c'est moi qui me retrouve dans le banc des accusés. Je regarde autour de moi, il n'y a personne. Étrange. Accusé et condamné en premier lieu par les médias, avec les juges en croupe et les honnêtes citoyens. Et comble de tout, par de soi-disant complices. C'est devenu tellement de bon ton et si facile de marcher avec la police pour sauver son propre cul. Et ceux qui n'ont jamais rien su, ni vu, ni entendu, ramassent bien, évidemment. Pourtant, je ne penserai même pas une seconde à changer quoi que ce soit. Comme on dit, la mauvaise herbe repousse toujours. Et j'entends bien être une mauvaise herbe dans leur prairie de bonnes intentions. Face à un monde aussi exécrable, que ce soit ici ou dehors, la seule chose que t'as, c'est ta dignité. Quand tu la vends, peu importe si t'as bien encaissé, tu l'as vendue, ta dignité. À l'intérieur de toi, t'es déjà mort. Comme c'est l'argent qui fait tourner le monde, la prison n'échappe pas non plus à cette logique. Faire travailler les prisonniers, c'est un vrai business. Toutes sortes d'entreprises ont des contrats ici. Les camions vont et viennent toute la journée. De toutes les prisons que j'ai connues, faut dire que Bruges vole haut. Un peu comme aux États-Unis où règne le monde du fric. Sur les 800 prisonniers qu'il y a ici, une grande partie travaille. Pour une rémunération minable, dans des conditions indignes, mais pas de souci avec la législation, profit garanti. Comme pour les sans-papiers dehors, l'exploitation n'a plus de limite. La directrice m'a aussi demandé de travailler. Ça, c'est une bonne blague. Moi, j'irai chipoter avec de petits pots en plastique à longueur de journée pour remplir leurs poches. Je ne pense pas.
Ici, un homme est maintenant attaché à une chaise, mains et pieds liés. C'est comme ça qu'il le trimballe à la douche, à 10 mètres de la cellule. Ses hurlements des dernières semaines ont cessé. Il ne fait plus que pleurer, jour et nuit. Ils bourrent tout le monde de médicaments. Ils disent que ce sont des vitamines. Je leur réponds que s'ils ont quelque chose à foutre de notre santé, qu'ils nous donnent des fruits, ou qu'ils nous libèrent tout court. Les infirmières passent 3 fois par jour, parfois plus qu'en nécessaire, comme cette fois où ils avaient besoin de vraiment droguer les gens, au point qu'ils ne pouvaient plus parler ni bouger. C'était quand la télé est passée il y a 2 semaines, avec le souci de bien montrer comme tout va bien ici, bien selon les règles. Quand évidemment ils ne pouvaient pas parler avec eux, avec ceux qui auraient peut-être eu quelque chose à dire. Mais on a largement dépassé le stade où il suffirait de dénoncer ce qui se passe. De toute façon, ça ne choque pas. Beaucoup plus qu'exercer la répression physique contre les gens, ils ont réussi à rentrer dans leur tête. À partir de ce moment-là, c'est perdu. Les gens ne voient plus que le monstre que les médias ont créé, l'étranger. Ce genre de régime ultra-répressif tombe pas du ciel. Il y a des personnes qui lui donnent forme, qui le perpétuent jour après jour. Ce sont eux les responsables. Comme Monsieur Meurice, donc c'est le directeur général de l'administration pénitentiaire là-bas en Belgique. Comme Monsieur Meurice et sa bande de laquais. Ce monsieur qui a dû se cacher dans un bunker avec sa famille quand un prisonnier réussit à s'évader d'ici. Pendant que des flics armés jusqu'aux dents protégeaient la prison de Gand, sa résidence officielle. Tous les autres, tous ceux qui exécutent ses ordres, se cachent derrière lui pour se déresponsabiliser comme des lâches. La question de la prison, c'est vraiment très simple. Dans cet environnement, il n'y a pas 10 000 options. Pour être franc, il y en a 3. Soit tu deviens fou, soit tu te suicides, soit tu t'évades. Vraiment très simple. Tout ce que ces hypocrites font, c'est cacter réinsertion ici, resocialisation là. Et entre-temps, t'es enfermé ici. Et c'est une vraie lutte de ne pas perdre tes sens, aussi bien la raison que les choses qui paraissent les plus simples. Toucher, voir, sentir, entendre. Penser la liberté, de presser pour l'atteindre, c'est ce qui te garde en vie.
Voilà, donc c'était une lettre de Nordine depuis le quartier de haute sécurité à Bruges, et qui est actuellement en grève de la faim et de la soif. Bon, cette lettre, elle met un sacré coup de poing dans le bide, Juste pour rappeler que les quartiers d'isolement, je crois qu'on ne l'a pas reprécisé, c'est donc ces quartiers super sécurisés.
Des mouroirs.
Où, voilà, qui, où les gens qui y sont disent bien, qui se sentent souvent enterrés vivants, etc. Et c'est beaucoup, beaucoup utilisé pour mettre les prisonniers les plus récalcitrants, les plus en lutte, les plus grandes gueules, quoi. Sous couvert de, sous prétexte de dangerosité. Donc voilà, lutter là-bas dedans, c'est, enfin, ces quartiers, c'est l'enfer. Et lutter là-bas dedans, c'est vraiment un truc de fou, vraiment impressionnant. Mmh.
Donc c'est pour ça là, que c'est important aussi de relayer ça. Enfin, la Belgique, c'est pas à côté de Saint-Étienne, mais enfin voilà, de faire vivre aussi sa lutte et de la faire partager à d'autres prisonniers qui nous écoutent.
Oui, et puis ceci dit, les prisons dans toute l'Europe, hein, c'est à quelques détails près, comme il le dit lui-même, hein, c'est les mêmes, ouais. Hein, c'est les mêmes schémas.
Ouais.
On peut voir les quartiers d'isolement, le régime Fies en Espagne, 41 bis en Italie. Enfin, bon, bref, c'est un peu les mêmes mesures qui sont reprises, les mêmes méthodes, hein, qui sont reprises partout, hein, de toute façon. Mmh. Donc voilà. Et juste, ouais, alors j'en profite pour le glisser, hein, pendant qu'on est dans notre page étrangère, on sait aussi que en ce moment en Italie, il y a pas mal de luttes dans les prisons, qui est partie de la prison de Bologne, où notamment, bah voilà, il y a des blocages de promenades, etc. Bon, on n'a pas réussi à avoir vraiment plus d'infos là-dessus, mais on sait qu'il y a pas mal de choses qui se font à l'extérieur, notamment de, bah, les trucs de soutien, des rassemblements devant les prisons avec de la musique, etc. Donc voilà, donc ça se bouge aussi chez nos amis transalpins.
On fait vite fait une pause musicale.
Allons. Un peu de Cannibal Ox.
National scratch demonstrator attached that to dedicate. This involves all total, all city caught up. Caught up, all city kid, nurture the unable to stand. In a place we live, and demand a saturated burn mega radio dial to send your kid. At a frequency to sift an intelligent broadband lid to combine red eye symptoms.
You wanna pop shit and get popped in the top lift? I shoot the five, and on a good day, I might bullets. We use bear traps to catch weasels. Metal mouth diesel in the bite. We in the catacomb. Nappy headed, never used the comb.
Bon, voilà. Alors, allons-y. Donc, on va terminer un peu cette émission. Donc, Papillon sur Radio Dio, 89.5 FM à Saint-Étienne, je rappelle. Donc, pour terminer cette émission, on va revenir un peu sur la réforme de la garde à vue qui est passée il n'y a pas longtemps. Donc, oui, c'est très chiant de parler de tous ces trucs. À chaque fois, c'est un peu la corvée, la punition de se taper l'exposé sur les lois. Mais c'est vrai que c'est important. Et en fait, si... Là où on trouve que c'est assez important, c'est de vraiment de donner des billes aux gens pour se défendre, en fait, bah voilà, éviter les peines ou les amoindrir, en sachant un peu, en connaissant un peu les lois et comment se défendre. Donc en gros, pour revenir là-dessus, donc la réforme de la garde à vue, elle a été votée en avril et elle est entrée en vigueur le 1er juin 2011. Voilà, et en gros, d'où ça vient, on en a parlé l'été dernier. L'été dernier, il y a 10 avocats qui ont saisi le Conseil constitutionnel afin de démontrer que la garde à vue ne respectait pas les droits de la défense. La Cour européenne des droits de l'homme avait déjà dit à la France qu'il faudrait peut-être qu'elle pense à se mettre aux normes. Voilà, et le Conseil constitutionnel a lui aussi dit que certains articles de la loi sur la garde à vue n'étaient pas... étaient contraires à la Constitution. Et donc, il a été demandé aux législateurs que pour juillet 2011, la garde à vue ait été réformée. Donc voilà, le législateur a bien travaillé, les médias en ont bien parlé. Et nous, on voulait revenir sur le contenu un peu de cette loi. À savoir que Maître David Rajoux de Brest, c'était un des 10 avocats qui avait saisi le Conseil constitutionnel, et lui, l'été dernier, dans Le Monde, dans le journal Le Monde, il disait que c'était une grande victoire de la démocratie et une véritable révolution qui s'annonçait dans le monde judiciaire et policier. On va voir qu'a priori, en fait, c'est pas trop le cas. Hein. Voilà. Et entre autres, ses arguments à lui, que moi je partage par contre, il disait qu'en fait, les gens placés en garde à vue sont totalement perdus, poursuivis pour des motifs abscons. Il parlait de toutes ces personnes qui avouent en garde à vue sous le poids de la lassitude, de la fatigue, et se sont rétractées dès leur libération, mais pour qui ces aveux extorqués ont pesé lourd lors du procès, à ces erreurs judiciaires aussi fondées sur des déclarations faites sans avocat. Voilà, en gros, la garde à vue, c'est un moment qui vous met sous une pression telle par divers moyens, qui peut vous faire dire tout et n'importe quoi, qui va être lourd de conséquences, et soit pour vous, soit pour autrui. Et voilà, c'est là-dessus que peut-être en connaissant un peu les ficelles, on peut se défendre un peu. Donc bah, le contenu de la loi, pff, c'est chiant, mais je vais essayer de vous lire un peu 2-3 pages de, qui ont été faites par la Legal Team Strasbourg. C'est un collectif anti-répression. Voilà, donc ça se trouve sur Internet pour ceux qui le veulent. C'est une synthèse de la loi, plus ou moins, de ce qu'elle va changer. Donc Legal Team Strasbourg, et puis sinon vous pouvez nous demander le document, on vous le fera passer. Donc les principales nouveautés de cette loi, elles portent sur 5 grands points. Donc premièrement, sur la justification de la garde à vue. Donc la garde à vue, elle devient réservée à une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Alors qu'avant, c'était même si vous étiez soupçonné d'une simple infraction. Voilà. Donc en fait, en gros, pour mettre quelqu'un en garde à vue, il faut avoir des bonnes raisons de le mettre en garde à vue. Et cette loi, elle fait semblant de restreindre encore plus les motifs pour lesquels les policiers peuvent justifier une garde à vue. En fait, en théorie, ils ne doivent l'utiliser que comme ultime recours pour les besoins d'une enquête ou pour faire cesser un crime ou délit. Mais en fait, ces motifs qui ont été inscrits dans la nouvelle loi, ils sont tellement larges que la police pourra, en gros, mettre en garde à vue un peu n'importe qui si elle a envie. C'est vraiment... Voilà, des espèces d'entourloupes comme ça, légales. Voilà. Sinon, la loi précise que la garde à vue doit s'effectuer dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Et là, c'est pareil, dans les faits, la police pourra très bien dire qu'ils n'ont pas les conditions matérielles nécessaires. Et de toute façon, leur but, c'est de foutre la pression. Ils trouveront les moyens de foutre la pression aux gens. Je me suis perdue dans mes pages. Voilà, donc deuxième point, c'est la durée de la garde à vue qui change, qui est apparemment, et en tout cas un petit peu amoindrie. Donc une garde à vue, normalement, de manière très générale, c'est 24 heures et ça peut être renouvelé. Et le renouvellement de la garde à vue au-delà des premières 24 heures n'est plus possible que pour les crimes et délits punis d'au moins un an d'emprisonnement. Donc rappelez, quand on dit punis d'au moins un an d'emprisonnement, c'est pour lesquels la loi prévoit une peine maximale de un an d'emprisonnement. À savoir que, par exemple, pour détention de stupéfiants, c'est 10 ans. Hein. Ils mettent extrêmement rarement ça, mais c'est très large le panel. Voilà. Donc, par exemple, un outrage, c'est un délit puni de moins de un an d'emprisonnement. Donc, normalement, la garde à vue n'est pas reconductible après 24 heures, sauf que si la police ajoute par exemple des circonstances aggravantes comme commis en réunion contre une personne dépositaire de l'autorité publique, et ben hop, ça passe à plus de un an, donc c'est renouvelable au-delà des premières 24 heures. Donc déjà, à savoir, donc tu peux faire, je sais pas, jusqu'à 30 ou 48 heures pour un outrage. Super. Sinon, le renouvellement de la garde à vue, il ne doit plus être accordé en principe qu'après présentation au procureur. Mais en fait, cette présentation au procureur, elle peut être faite par visioconférence et aussi à titre exceptionnel, entre guillemets, on peut aussi se passer de la présentation devant le procureur. Donc en fait, en gros, la police pourra toujours jouer, le procureur pourront toujours jouer sur les petits détails de la loi qui font qu'en fait, on ne peut pas renouveler la garde à vue, sauf si. Et à savoir aussi que pour les gardes à vue pour criminalité organisée ou terrorisme, la durée n'est pas modifiée, c'est-à-dire 96 heures, pendant tes dents, hein, voire 144 heures en cas de risque sérieux d'imminence d'action terroriste.
Il n'y aura aucun avocat qui sera présent sur toute la durée.
Oui, alors ça, en plus, il y avait ça. On en avait déjà parlé vite fait, mais ce truc, c'est est-ce que matériellement... Il y a des avocats qui vont se bouger le cul pour assister des clients aussi longtemps et être là. On se demande comment ça va être possible. Mais là-dessus, on essaiera d'en parler une autre fois sur vraiment concrètement comment ça se passe. Là, on a essayé d'avoir un avocat, on s'y est pris un peu tard, il nous répondra sûrement plus tard sur comment ça se passe vraiment, parce que c'est ça qui compte, c'est de savoir comment ça se passe vraiment. Là, c'est un peu de la théorie, quoi. Donc, le troisième point, c'est la notification des droits. Donc, la nouvelle loi, elle précise que la personne gardée à vue doit être informée du droit lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Donc ça, c'est un droit qui a toujours été dans le droit, qui avait été... Mais sauf qu'on ne vous le disait pas, quoi. En gros, on ne te mettait pas au courant que tu avais le droit de te taire. Maintenant, on te met au courant. Ça avait été introduit dans la loi, je ne sais plus, il y a quelques années, mais face à la pression des policiers, ça avait été retiré de la loi.
C'était super ben, quoi.
Ouais. Voilà. Donc, quatrième point, c'est un gros point, c'est donc la présence de l'avocat en garde à vue. Donc, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Donc ça, c'est nouveau. Cet avocat peut être désigné par la personne gardée à vue, commis d'office ou encore choisi par le proche qui a été contacté par la police, à condition que la personne gardée à vue soit d'accord avec ce choix. Mais, si j'ai bien compris, si on est soupçonné de terrorisme, trafic de stupéfiants ou bande organisée, on n'a pas le droit à cette assistance d'un avocat lors des auditions. Donc, ce que l'avocat, la maître Rajou que je citais au début, lui, il espérait que cette réforme allait remettre en cause les régimes d'exception qui sont la détention, la garde à vue pour donc terrorisme, stupéfiants et bande organisée. Et en fait, bah, pas du tout. À savoir que bande organisée, c'est quand t'es plus de 1. Donc si t'as fait un vol à 2, c'était une bande organisée. Et ben, dommage. Voilà. Donc aussi, les flics ou le procureur peuvent contester le choix de l'avocat en cas de conflit d'intérêts, entre guillemets, et demander la désignation d'un autre défenseur commis d'office. À savoir que le code est muet sur le fait, sur qu'est-ce qu'on peut entendre par conflit d'intérêts. Donc ensuite, comme auparavant, un entretien entre l'avocat et la personne gardée à vue est possible. Cet entretien, il est de 30 minutes, il est confidentiel et il peut être demandé à nouveau lors d'un renouvellement de la garde à vue. L'avocat, il va avoir accès à certaines pièces du dossier, le PV de notification de garde à vue, le certificat médical et les PV d'audition de la personne qui l'assiste. Mais il n'aura toujours pas accès aux autres pièces du dossier, c'est-à-dire celles qui sont le plus importantes pour savoir ce qu'il y a d'incriminant contre la personne gardée à vue, à savoir le PV d'interpellation ou les déclarations des témoins ou d'autres personnes gardées à vue. Donc, dans les faits, l'assistance de l'avocat, elle sera vraiment réduite par le fait qu'il n'en saura pas beaucoup plus que son client sur les éléments à charge, à disposition des flics. Donc, si la personne gardée à vue le demande, l'avocat peut être présent lors des auditions de son client et lors des confrontations. Donc ça, c'est nouveau et ça pourrait sembler important. Parce que c'est le moment un peu où tout peut basculer si on en dit trop, si on dit des conneries, si on avoue qu'on soit coupable ou pas, des fois on avoue sous la pression, etc. Donc l'audition ou la confrontation, elle est menée par un officier ou un agent de police judiciaire qui peut à tout moment y mettre un terme en cas de difficulté, entre guillemets. Donc voilà, il peut demander aussi au procureur de la République qu'un autre avocat soit désigné. Donc bref, on l'aura compris, les difficultés dont il est question, c'est celles que l'avocat pourrait causer s'il est peut-être trop bon. Voilà. Et la loi donne moyen aux flics de se débarrasser d'un avocat qui s'aviserait d'être autre chose qu'une potiche. Donc tout se jouera sûrement selon la bonne volonté des policiers. À la fin de l'audition ou de la confrontation, la loi donne le droit à l'avocat de prendre la parole sous la forme de questions. Mais les policiers peuvent s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Voilà, et voilà, le refus doit être notifié dans un PV. Donc on voit bien que les pouvoirs de l'avocat seront de fait assez limités. Il pourra quand même présenter des observations écrites qui seront jointes au dossier. À savoir qu'il n'a pas le droit de donner la moindre information à autrui sur ce qu'il a appris pendant la garde à vue. Voilà. Et aussi, à savoir, alors il y a tout un truc, mais c'est assez compliqué, les policiers peuvent retarder le moment où l'avocat va intervenir en garde à vue, notamment, entre guillemets, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent. Donc voilà, il y a tout un truc sur les heures à laquelle l'avocat peut arriver, c'est un peu compliqué. Si besoin, on peut communiquer un peu les détails. Hein. Mais Voilà, en gros, retenir que les policiers peuvent différer, pour des raisons liées à l'enquête, l'intervention de l'avocat. Voilà, donc la présence de l'avocat lors des auditions ne change fondamentalement pas grand-chose. Il ne peut pas intervenir durant l'audition et n'a pas un accès complet au dossier. Par conséquent, même le plus combatif des avocats ne pourra pas facilement aider son client à se sortir des pièges tendus par les flics. Donc, il reste préférable, souvent, de ne rien dire quand on est en garde à vue, surtout tant qu'on ne connaît pas les pièces du dossier, les pièces à charge, qu'est-ce que les flics ont contre nous, et tant qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir vraiment à la manière dont on allait se défendre.
Et puis ne rien dire, ça permet aussi de ne balancer personne.
Voilà, parce qu'un dérapage est vite arrivé. On sait que c'est très dur, c'est la grosse pression, la garde à vue. Voilà, et pour ceux qui décideraient de répondre aux questions quand même, déjà, ils peuvent dire le fameux truc comme à la télé, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, et peut-être les flics se décideront à le faire venir un peu plus vite. Et dans tous les cas, ça reste recommandé de demander l'assistance de l'avocat. Enfin, même si ça... Là, je dis des trucs un peu défaitistes, comme quoi ça servira à pas grand-chose. Si, c'est important qu'il soit là, c'est important d'avoir quelqu'un à ses côtés, de prendre note de tout ce qui se passe en garde à vue pour l'avoir sous le coude, parce que un vice de procédure, tous ces petits droits là qui ont été mis dans la loi, s'ils sont pas respectés par la police, un bon avocat après, il pourra les soulever en justice pour faire annuler ou rendre plus difficile la procédure contre vous. Voilà, alors il y a aussi des détails sur les fouilles et les conditions de la garde à vue. Les flics peuvent prendre des mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Ils peuvent vous passer les menottes, etc. Et ils peuvent procéder à une palpation de sécurité ou à une fouille intégrale, c'est-à-dire dénuder la personne, lorsque c'est indispensable pour les nécessités de l'enquête. Et ça doit être dans un espace fermé et par une personne de même sexe que la personne fouillée. Et comme avant, en cas d'investigation corporelle interne, c'est-à-dire un doigt dans l'anus ou dans le vagin, les flics devront avoir recours à un médecin. Donc juste vite fait, pour revenir sur ce truc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir que, comme je le disais, s'il y a eu des vices de procédure et que le droit n'a pas été respecté, l'avocat peut l'utiliser pour soulever la nullité de la procédure. Ça s'est déjà vu. Et en plus, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui dit que toutes les gardes à vue qui ont eu lieu avant le 15 avril 2011 et pendant 6 mois avant le 15 avril 2011, elles auraient dû appliquer cette loi qui est passée ensuite. Donc, c'est un peu comme rétroactif. Donc, pour toutes ces gardes à vue-là, on peut soulever, je ne sais pas moi, si le médecin a été appelé trop tard, si les droits de se taire n'ont pas été notifiés, etc. L'avocat peut soulever une nullité de procédure. Et en gros, dans les faits, on reviendra dessus. Mais ça fait que le juge, il ne peut pas s'appuyer pendant le procès sur certains PV s'il y a eu des vices de forme. Donc, par exemple, si quelqu'un a avoué en garde à vue mais qu'il y a eu un vice de forme, eh ben, l'aveu ne fonctionne plus devant le tribunal, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. On va demander à des avocats de nous expliquer plus concrètement à quoi ça sert, si ça marche vraiment, etc. On vous en reparlera. Et en dernier lieu, un tout petit détail, je suis très en retard, le prélèvement ADN. Donc en garde à vue, on peut vous prélever votre ADN pour vous ficher. Il faut savoir qu'on ne peut pas le prendre sans votre accord. Par contre, si vous refusez, donc c'est possible de refuser, mais c'est un délit, vous pouvez passer... en procès pour refus de fichage ADN. Mais par exemple, on a vu récemment un cas à Lyon où 2 personnes ont refusé d'être fichées en fin de garde à vue. Elles ont été poursuivies et au procès, elles ont dit « Oui, mais on ne nous reprochait rien d'autre qui tenait la route. » C'est vrai qu'elles n'ont été poursuivies pour rien d'autre que pour le refus de fichage ADN. Et en fait, ça fait qu'elles ont été relaxées. Donc, ça valait le coup d'avoir refusé d'être fichées. Et voilà, j'ai fini. Je suis en retard.
Bon, alors l'émission se termine sur les chapeaux de roue. Alors déjà, quand même une info pratico-pratique par rapport à la radio. Donc, Radio Duo déménage ce mois. On part du Cred Rock, ça faisait 10 ans que la radio était, et on va déménager dans le quartier de Beaulieu à Saint-Étienne. Du coup, pour nous écrire, vous pouvez toujours nous écrire à Émission Papillon, donc l'adresse actuelle, chez Radio Duo, 14 bis rue de Roubaix, BP 51 42 002 Saint-Étienne, CEDEX 1. On vous a dit les rediffusions, donc là ça sera le jeudi 21 à midi sur Radio Dio et sur Canu le 19 juillet à 20h pour la maison pour Corba. Les messages,
ouais, notre adresse mail quand même, ah oui, pour les gens qui ont accès à internet, c'est émission papillon tout attaché et sans accent, donc émission papillon tout attaché sans accent @riseup.net, riseup.net. Et à savoir aussi que nos émissions sont écoutables et téléchargeables sur le site internet du numéro 0, le numéro 0.l'autre.net.
Bon, les messages ?
Oui.
Bon, alors déjà, merci à Mathieu, à Nabil, à Francis pour ses courriers. Spécialement une grosse bise à Nabil, et puis je te dis à mardi, et une grosse bise aux autres aussi, écrivez-nous bien évidemment, on est là, et moi je vous dis au mois prochain, on verra comment ça se passe, et voilà, si une émission, et voilà.
Voilà, pour ma part, un grand bonjour à tous les détenus, à tous les gens qui nous écoutent, notamment aux détenus qui sont en lutte et révoltés, aux gens qui sont sortis et qui ont envie de se bouger, à leurs proches, et encore plus particulièrement, salut Mathieu, salut Nabil et bise. Et le petit message pour Nabil, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par ton appel à débattre sur la sortie de prison et qui devraient t'écrire. Alors j'espère qu'ils vont se bouger et qu'ils le feront.
Voilà, et pareil du coup. Et on va se quitter avec un morceau, très très beau morceau de lutte, hein. Un appel à la liberté, je serais tenté de dire, c'est beau, du catalan Louis Latch, et du coup il est dédicacé pour Nabil et Mathieu qui nous ont écrit.
Et Francis aussi.
Oui, Francis, oui, aussi Francis.
Et on se retrouve le premier dimanche d'août à 17h30 jusqu'à 19h.
Voilà, comme d'habitude. Et salut à tous.
Ciao, bon
salut.
Courage.
Allez.
Courage, force et détermination.
Bon, désolé pour la version du morceau qui n'était pas la bonne, mais ce sera pour la prochaine fois, promis. Voilà, grosse bise à vous. Hein ? Quel copain ? Non, le CD marchait pas non plus. Voilà, donc on aurait dû passer le morceau d'un pote aussi qui marchait pas non plus. Donc désolé, mais à coup de pas, c'est les joies de l'amateurisme. Donc on vous laisse avec les bandes. Ciao à tous.